Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Louis.
On a beaucoup pu lire et entendre que depuis 2017, la parole des femmes s'était libérée. Un torrent de témoignages dénonçant violence et harcèlement sexuel ouvrait alors la voie à une nouvelle révolution féministe. Les femmes ne pouvaient plus se taire. Il fallait maintenant parler. Mais comment l'arrache-t-on cette parole, parfois longtemps confisquée? Comment ose-t-on? Qui est prêt à la prendre? Qui a été préparé et autorisé à s'en emparer? Et finalement, qu'est-ce que dire ou se dire à haute voix peut réellement changer pour soi et pour les autres? Ce sont toutes ces questions que pose le nouveau podcast de Louis Média, produit avec Nova. Il s'appelle Fracas. Et au micro, tous les jeudis, Charlotte Pudlowski interroge un homme ou une femme sur la place que prend la parole dans sa vie. L'écrivaine Fatima Das est la première invitée de Fracas. Et nous avons eu envie de vous faire découvrir cet épisode dans le Book Club. Elle vient de signer un roman puissant, La Petite Dernière. Un roman rythmé par une phrase. Je suis Fatima Das, dont le retour incessant à chaque début de chapitre crée un véritable souffle, un chant sacré, et laisse résonner un jeu qui se nomme et qui parle grâce à l'écriture. Je suis Agathe Le Taillandier, et voici le premier épisode de Fracas par Charlotte Pudlowski.
J'ai horreur de parler. Je crois que c'est pour ça que j'écris. Je pense que je m'y fais avec le temps. Mais j'ai longtemps eu beaucoup de mal à parler, en fait. J'ai souvent eu l'impression de ne pas savoir parler, de ne pas parler correctement, de ne pas savoir exprimer ce que je ressens, ce que je veux, ce que je suis. Donc j'ai un rapport assez particulier avec la parole.
Ça me plaît d'inaugurer ce podcast sur la parole par quelqu'un qui n'aime pas parler. Fatima Das a 24 ans, elle est écrivaine, enfin c'est un pseudonyme, mais on l'appellera par ce pseudonyme sous lequel elle publie son premier roman, La Petite Dernière. Et puis Fatima Das, c'est aussi le nom de l'héroïne du roman. Une héroïne qui décrète « J'ai longtemps pensé que les choses se ressentent, plus qu'elles ne se montrent, des restes de mon éducation montrés par petites touches, mais ne jamais dire ». L'écrivaine et son héroïne ont pas mal de points communs. Deux femmes qui grandissent à Clichy-sous-Bois, deux femmes musulmanes et croyantes, deux femmes lesbiennes, deux femmes qui ont grandi dans les silences et qui essaient de parler à travers l'écriture, puisque l'héroïne écrit aussi un livre, comme la romancière. Et toutes deux restent habitées par des non-dits. Mais est-ce qu'on peut vraiment tout dire quand on a grandi baigné dans les silences, balancer les vérités d'un coup, un beau jour, comme paraît-il on doit arracher les pansements? Je suis Charlotte Pudlowski. Bienvenue dans Fracas.
Je pense qu'on ne concilie pas les deux. En fait, on peut jamais complètement concilier les deux. En tout cas, je parle de Fatima. Ouais. Je pense qu'elle n'arrive pas à concilier les deux. Et du coup, l'histoire, ce n'est pas une solution, quoi. Enfin, il n'y a pas de solution à la fin de coming out ou de « je suis heureuse en étant lesbienne et musulmane ».
Quand est-ce que vous en avez parlé la première fois à quelqu'un ?
Je crois que j'en ai parlé la première fois à ma psy. Au bout de, je sais pas, d'un an de thérapie. Et je l'ai pas dit. J'ai pas dit je suis lesbienne. J'ai dit je sais pas trop ce qui m'arrive. Je me demande si ce que je ressens c'est de l'amour ou si j'aime les femmes. Et c'était difficile à dire et j'étais dans tous mes états.
Vous aviez quel âge ?
18 ans.
Et entre vos, je sais pas, 6-7 ans, où vous commencez à imaginer que peut-être il y a quelque chose de différent de la norme qu'on nous propose, en tout cas, et vos 18 ans, vous en avez parlé à personne ?
Non, j'en ai parlé à personne. J'en ai parlé à personne, je m'en suis pas parlé, et j'ai pas écrit là-dessus. Et en le disant à ma psy, progressivement, j'en ai parlé à quelques personnes, et puis après, maintenant, je le crie un peu sur tous les toits. Mais parce qu'il y a un truc qui veut ressortir, et c'est... voilà, une fois qu'on libère la parole, on a envie de garder cette parole et de le dire... enfin, ouais, de le montrer, parce qu'on a tenu trop longtemps dans le silence.
Et vous le criez où, par exemple ?
Bah, par exemple, au boulot, j'ai deux drapeaux, le drapeau algérien et le drapeau LGBT. Et ça dit quelque chose, et puis tout le monde le sait, enfin, voilà, maintenant, je... Souvent, on me demande si à Clichy-sous-Bois, les gens savent que je suis lesbienne, et je réponds, bah oui, il n'y a aucun problème avec ça, en fait. Les moments où en fait, t'as l'impression que t'es pas lesbienne et musulmane, c'est pas à Clichy-sous-Bois, mais c'est ailleurs. Ça peut être dans le milieu LGBT, comme ça peut être, enfin, voilà. T'as l'impression que tu dois rendre des comptes par rapport à ta croyance. Parce qu'on te pose beaucoup de questions aussi. De la famille, qu'est-ce qui va se passer? On va te foutre à la porte, on va te détester toute ta vie. Mais comment tu fais pour croire en un dieu? Regarde le monde dans lequel on vit. Enfin voilà, et c'est en fait c'est difficile de recevoir ça. Et en fait, les gens pensent qu'ils donnent juste leur opinion, mais c'est ultra violent en fait. Quand t'es croyante, qu'on vienne te dire ça. Moi, enfin, je dis pas aux non-croyants, mais c'est vous êtes teubé ou quoi? Vous croyez que ce monde il existe comment? Je le dis pas. Enfin voilà, et je le pense pas d'ailleurs. Mais voilà, c'est difficile, je trouve. À Clichy-sous-Bois, justement, c'est mais on n'en parle pas et on l'accepte après avoir grandi, quoi, avec des personnes, des adultes. C'est vrai qu'à l'adolescence et tout, c'est difficile parce que tu sais pas ce que c'est et parce que t'as l'impression que t'es la seule. Mais en tout cas, il y a vraiment un respect et beaucoup de tendresse.
À quel moment vous avez commencé à écrire ?
Je crois que j'avais 15 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé à écrire réellement quand ma petite cousine de 4 ans est morte. Ça m'avait perturbée parce que c'est pas un enchaînement normal.
Elle est morte de quoi ?
Elle est tombée d'un toit en Algérie. Et ça m'avait vraiment choquée, en fait. Ça m'avait vraiment choquée parce que... Bah parce que je savais pas ce que c'était la mort et que bah ça allait pas dans le sens que dans lequel je pensais et je comprenais pas, donc je lui ai écrit des lettres et pendant un moment, et en fait j'ai commencé à me livrer à cet enfant mort et bah j'ai continué à écrire, et puis au lycée j'ai fait des ateliers d'écriture. J'écrivais de la fiction. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y avait cette nécessité-là et que j'ai écrit un texte pendant mes années d'études au sein du master de création littéraire. Et que j'ai écrit sur mon rapport à la religion et que je n'avais jamais fait ça avant.
C'était une commande de vos profs d'écrire là-dessus ?
En fait, on travaillait avec mon groupe sur, sur la contre-fiction liée à l'islam. Et on s'était donné entre nous la première consigne, parler de notre rapport à l'islam, donc qui était complètement différent, le mien, des leurs. Et du coup, on s'est fait lire les textes et mon prof m'avait dit « Est-ce que je peux le lire ?» Je lui ai dit « Oui, je vous l'envoie. » Donc je ne l'ai pas envoyé le premier jour, le lendemain, il m'a redemandé. Je lui ai dit « Oui, je vous l'envoie. » Je lui ai envoyé et du coup, le lendemain, il m'a dit « En fait, ton projet, il est là. » Et tu devrais continuer, et que j'ai dit au début, mais vous êtes des grands malades, et que je ne l'ai pas fait, et que j'ai écrit pour moi, et qu'ensuite j'ai montré mon texte. Et finalement, ça a donné ce roman, Et voilà, maintenant, on y est.
Au moment de le publier, vous vous êtes posé la question de le faire sous votre vrai nom, ou c'était une évidence qu'il fallait le faire sous pseudo ?
Si, je me suis posé la question, parce que j'avais aussi envie... au début, j'avais envie que mon nom apparaisse sur mon roman, mais après, j'ai déconstruit le truc de comment dire ? Après, je me suis dit que c'était plus important, le pseudo, que de garder mon prénom, mon nom de famille. Parce que de toute façon, c'est l'écrivaine et c'est pas moi, tant que personne, en fait. Je sais pas si c'est clair, mais...
Comment ça ?
C'est l'écrivaine. Du coup, je me suis dit, je mets le nom de l'écrivaine. Et je mets le nom de la narratrice parce que je vais porter cette histoire. Et moi, je suis quelqu'un d'autre encore. En vrai. Je suis plein d'autres personnes. Et du coup, voilà, il fallait que je trouve un pseudo. Donc j'ai pris ce pseudonyme pour vraiment parler de cette histoire et pouvoir la porter correctement. Et aussi pour me protéger et protéger les autres.
Pour les protéger de quoi ?
De l'exposition. D'être exposé aux autres, d'être exposé à des choses qui les concernent, à des gens, à des mondes qui ne les concernent pas.
Donc concrètement, vous aviez peur du jugement d'un monde sur l'autre ? Vous aviez peur de faire du mal à des gens ?
Quand on écrit, on fait toujours un peu du mal. Donc oui, j'avais peur. Enfin, je pense qu'au début, je ne me rendais pas forcément compte. Et plus j'allais vers la fin du roman, et plus je me questionnais sur ce que ça pouvait faire à des personnes qui pouvaient se reconnaître. Et je pense que ce n'est pas facile de se reconnaître dans un roman, même si y a aussi de la fiction. Et ce n'est pas forcément ce qu'on en dit, c'est se retrouver dans un roman. Et on ne peut pas se le cacher, ça parle d'islam, et l'islam, ça fait du bruit. Et voilà, ça parle de trop de choses qui peuvent être instrumentalisées.
C'est de ça que vous avez peur ? Vous avez peur que ce thème-là soit instrumentalisé ?
J'ai peur de deux choses. En ayant écrit ça, j'ai eu peur de que la communauté musulmane voit ce roman comme... un roman qui tente de réformer la religion, parce que c'est pas ce qu'il dit, ce qu'il veut. Et dans un autre sens, j'ai peur qu'on voit ce roman comme si le personnage était encore dans une homophobie intégrée. Je sais pas si c'est très clair, mais ça, c'est mes deux peurs, en fait, des deux communautés, à la fois la communauté LGBT et la communauté musulmane. Et pour moi, ce roman, c'est juste comment tu te construis en étant plusieurs choses, ou en ayant plusieurs facettes et parfois des éléments qui semblent contradictoires. C'est tout, en fait.
Et donc, votre famille ne sait pas que vous publiez un roman ?
Si, ma mère sait, mes sœurs aussi. Elles savent et elles sont très contentes.
Elles savent sur quoi c'est, elles savent le pseudo, elles savent que c'est sous pseudo.
Oui, elles savent que c'est sous pseudo, toutes. Ma mère, elle ne sait pas forcément tout ce qu'il y a dedans, mais on a dealé ensemble, avec les non-dits, avec la petite parole qu'on arrive à se transmettre. Voilà.
Et vous, est-ce que vous avez dit à vos parents que vous aimiez les femmes ?
Eh bien, non. Non, je ne leur ai pas dit, mais parce que ça m'appartient. Et parce que je ne ressens pas le besoin ni l'envie. Si à la fin du roman, Fatima ne le dit pas à sa mère, c'est aussi parce que elle respecte son choix, elle respecte le fait qu'il y ait ce silence qui les protègent mutuellement. Mais la mère, elle comprend tout, en fait. La mère, elle comprend tout dans le bouquin. Et c'est juste que... on parle jamais clairement. On parle jamais directement. Mais elles se comprennent, et c'est ce qui importe, en fait. Moi, j'ai mis du temps à parler et à aimer parler ou à être à l'aise en parlant. J'ai toujours parlé avec mes amis, mais jamais de moi. Enfin, je me suis jamais vraiment confiée complètement à mes amis, par exemple à l'adolescence, etc. Mais avec le temps, je pense que j'y arrive mieux. Et ça, c'est cool, ça fait du bien. Après, j'ai l'écriture, j'ai rencontré l'écriture. Hyper cliché, ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça m'a appris à parler. Et ouais, c'est vraiment en écrivant où je me suis dit... t'es en fait, au bout d'un moment, t'es obligé de te confronter aux autres, de te confronter à toi-même. Et l'écriture, ça permet ça. Ça t'oblige, en fait, à un moment donné, à te regarder, à regarder les autres et à regarder le monde. Et voilà, après, t'en parles. Et là, j'ai écrit ce bouquin et j'ai envie d'en parler. C'est pas facile, mais j'ai envie d'en parler.
Vous venez d'écouter Fatima Das au micro de Charlotte Pudlowski. Fatima Das est écrivaine. Son premier roman, La Petite Dernière, vient de sortir aux éditions Noir sur Blanc. Fracas est une production Louis Média et Radio Nova, créée et présentée par Charlotte Pudlowski. Anna Buy a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Ce podcast explore la manière dont on prend la parole, qui veut la prendre et ce que cela peut changer. Je vous invite à aller écouter les autres épisodes et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Fracas est invité dans le Book Club, dont Maud Benakcha assure l'édition et la coordination. Ce podcast est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. Merci pour votre écoute toujours fidèle et à très vite.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.